c'est sûr que quand la COVID est arrivée, ben ce qu'on a remarqué dans le marché, c'est que là, les gens, il n'était plus question de vendre le commerce électronique. Là, les gens étaient éduqués là-dessus. Puis c'est devenu vraiment une partie de plaisir parce qu'on pouvait vraiment arriver avec un discours puis dire, ben voici comment on va optimiser le commerce électronique. J'ai pas besoin de te convaincre, tu sais, d'y aller en ce moment en ligne, de te positionner face à tes compétiteurs.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 88e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Les événements hors de l'ordinaire de la dernière année auront malheureusement bloqué certaines entreprises de grandir, mais auront aussi permis à plusieurs autres d'entre elles passer en vitesse supérieure. Mon invité du jour, François-Jérôme Gosselin, président et cofondateur de Novatize, discute cette semaine avec nous de la croissance que son organisation a connue dans la dernière année en passant de 17 collaborateurs à près de 50 au moment de la mise en ligne du podcast. Novatize, agence spécialisée en commerce électronique, a donc pu surfer sur la vague du commerce en ligne et s'installer comme un joueur dominant au Québec pour les entreprises voulant se numériser. Dans l'entretien de près d'une heure, on aborde des sujets propres à la prestation de services comme la culture organisationnelle, les ressources humaines, ainsi que la structure qu'une entreprise doit adopter quand elle doit changer de dimension en aussi peu de temps. Sans plus attendre, ma discussion avec François-Jérôme Gosselin. François-Jérôme Gosselin, tu es le président et cofondateur de Novatize, une agence de la Ville de Québec 100% spécialisée en commerce électronique. Fondée en 2014, ton organisation a grandi rapidement, spécifiquement dans la dernière année, où votre entreprise est passée de 17 collaborateurs à près de 50 au moment de l'enregistrement de ce podcast en juillet 2021. François-Jérôme Gosselin, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Ben, merci à toi, Antoine. Je tiens à te dire que c'est pas facile de maintenir un show d'une aussi bonne qualité que le tien, mais tu fais ça de main de maître, alors c'est avec plaisir qu'on va se parler aujourd'hui.
C'est gentil, j'apprécie beaucoup tes mots. Et François-Jérôme, on va parler, comme on le dit, de commerce en ligne ce matin et croissance, parce que j'ai l'impression que pour une entreprise comme la tienne, les deux vont de pair, surtout avec la dernière année qu'on vient de vivre. Mais avant d'embarquer dans cette discussion sur l'accélération importante qui a pu se dérouler autant au niveau du commerce en ligne que de votre entreprise, peux-tu nous dire aujourd'hui comment ton entreprise s'est fondée il y a bientôt 7 ans de ça? Là?
Yes, exact. Ben écoute, officiellement, je te dirais, c'est comme un peu un vieux couple, on a mis une date là-dessus là, au 1er janvier 2015 pour la fondation de l'entreprise, mais l'histoire puis l'aventure débute un petit peu avant, là, en 2014. En fait, Novatize, c'est Pierre-Louis Brassard et moi, on était encore, je dirais pas que c'était un projet étudiant, mais on était encore à l'université quand on a pensé à ça. On a toujours fait des projets techno un petit peu de notre côté, puis on remarquait, tu sais, que ce qui nous faisait vraiment triper, c'était justement bâtir le projet, faire des stratégies, de faire connaître, puis tout ça. Puis on aimait ça toucher un petit peu à tout. Tu sais, on était attiré par différentes industries. Puis ça, je te dirais que c'est ce qui a fait en sorte qu'on a eu la piqûre vraiment pour le service, là, de se dire, ben écoute, nous, on aime ça, tu sais, voir plusieurs industries, travailler dans divers domaines, puis amener notre skill set là-dedans, finalement. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'aller dans ce domaine-là. Puis au niveau du commerce électronique, je te dirais, tu sais, il y a tout le temps, on dit tout le temps qu'il y a une petite part de luck là dans la vie, de chance sur comment tu portes ton entreprise. Puis dans notre cas, je te dirais que c'était le premier mandat qu'on a eu, qui était un mandat pour un traiteur, qui un traiteur événementiel, là, bon, quand même assez classique comme modèle d'affaires, mais qui voulait se numériser complètement en 2014. Fait que, tu sais, Novatize n'existait pas. On a fait ça, PO puis moi, parce qu'on voulait aider cette entreprise-là, puis que c'était sa mission de se numériser. Puis tu sais, en rentrant là, on a fait le saut parce que là, tu sais, on était encore assez jeunes. Puis là, l'entreprise nous partageait tout son chiffre d'affaires, ses objectifs, ses enjeux. Puis là, on avait l'impression qu'on rentrait vraiment dans une partie core de l'entreprise. C'est ça qui nous a fait vraiment triper, là. C'était le fait que, tu sais, OK, on se faisait accorder un peu cette confiance-là. Après ça, c'est notre but, c'était vraiment d'aider sur des enjeux clés de l'entreprise, l'aider à passer à un prochain niveau via, évidemment, le commerce électronique. Mais c'est vraiment ça qui nous a donné la piqûre plutôt que d'autres types de mandats ou d'autres types de petits projets qu'on avait fait avant. Donc, c'est vraiment ce qu'il a fait là, tu sais, qu'en 2015, quand on a fait le choix là, de dire « OK, let's go, on y va à fond dans cette entreprise-là », de se dire « On va y aller en commerce électronique, on va se focusser là-dedans puis on va grandir de cette façon-là ». Fait que je te dirais, c'est la fondation pas mal de l'entreprise. Tu sais, dans la même année, on est allé chercher aussi, que tu connais, un troisième associé, Philippe Paquette de Varennes, qui s'est occupé un petit peu plus du développement d'affaires, là. Donc, PO puis moi, on était un petit peu plus le volet technique de l'entreprise. Puis on se disait toujours, pendant qu'on fait ces premiers mandats-là, il faut bien que quelqu'un aille en chercher un autre pour qu'après ça, on ne se tourne pas les pouces. Fait que ça l'a aidé à ce niveau-là. Puis on a grandi tu sais, de façon assez organique quand même. Là. Fait que oui, on a une bonne croissance, mais je suis quand même toujours fier de dire qu'il est bien structuré. Donc, tu sais, depuis 2015, là, on a pratiquement doublé chaque année. Puis là, cette année, on a un plus gros bond qu'on pourra discuter, notamment évidemment à cause du COVID. Le COVID a aidé, je pense qu'on a saisi l'opportunité. Puis là, ben, comme tu dis, on est rendu 50 là, avec quand même plusieurs services qui peuvent nous aider à nous positionner comme partenaire de choix pour des entreprises qui vont vouloir optimiser leur commerce électronique. Là, finalement.
Puis, on va parler un petit peu de croissance parce que je pense que tu as bien fait de le mentionner. COVID-19, commerce en ligne vont très bien ensemble et vous étiez bien positionné. Vous étiez un petit peu visionnaire à l'avant-garde de tout ça, de faire uniquement du commerce en ligne parce que clairement, il y avait une accélération qu'on était capable de voir même avant tout ce qui a pu se dérouler avec la pandémie. Bien entendu, c'était beaucoup plus évident quand tous les commerces étaient fermés. Et j'aimerais parler de piliers de croissance, François-Jérôme, si tu me le permets. J'aimerais qu'on puisse parler du volet, bon, fondation, on va dire, officieuse en 2014, fondation officielle en 2015. Parle-moi un petit peu de la distinction qu'il y a eu entre 2015 et, on va dire, février 2020, donc ces quelques années-là. Et par la suite, on parlera du deuxième pilier de croissance qui a vraiment été dans la dernière année parce que oui, tu le disais, vous avez doublé chaque année, mais là, dans la dernière année, vous avez triplé, certes, mais vous avez surtout amené, si on regarde ça là, d'un point de vue avec un petit peu plus de recul, 30 nouveaux collaborateurs à l'entreprise quand vous étiez 17 dans ces 3-4 premières années-là. Fait que oui, c'est triplé, mais c'est surtout de se dire, hey, le nombre de gens que vous avez amenés dans la dernière année, c'est le double de gens que vous aviez avant ça. Donc, si tu peux me parler un petit peu de la distinction de l'évolution de l'entreprise entre ces deux périodes.
Non, c'est une super bonne question. Écoute, c'est sûr que nous, étant dans le service, focusé dans le commerce électronique, je trouve que on peut aussi illustrer cette distinction-là beaucoup par ce qui se passe dans l'industrie aussi. Là. Puis, je te dirais que avant février 2020, il fallait encore beaucoup vendre le commerce électronique. Fait que, tu sais, on vendait pas Novatez à la base. Tu sais, on essayait de convaincre les gens de vraiment optimiser leur commerce électronique, tu sais, d'avoir des objectifs un petit peu plus ambitieux. Tu sais, il y avait toujours des métriques dans le marché qui disaient, ah, ben, si tu réussis à faire 10, 15%, 20% en ligne de ton chiffre d'affaires, ben, c'est bon. Nous, on essayait toujours de repousser ça un petit peu chez nos clients. Puis, je te dirais que ça a forcé un petit peu ce mindset-là, une proactivité à l'interne, c'est d'être capable d'aller convaincre les gens d'optimiser leur commerce électronique toujours ou de se lancer sur le commerce électronique. Bref, tu sais, il fallait quand même être assez proactif là-dedans, démontrer des résultats assez rapidement au niveau des stratégies. Fait que tu sais, on était toujours un petit peu dans ce mode-là. On avait quand même une croissance, comme tu disais, assez bonne avant la pandémie aussi, là, dans le sens où on doublait à chaque année, puis quoi que c'était des plus petits chiffres, mais tu sais, c'était quand même le fun à voir aller. Puis c'est sûr que quand la COVID est arrivée, ben ce qu'on a remarqué dans le marché, c'est que là, les gens, il n'était plus question de vendre le commerce électronique. Là, les gens étaient éduqués là-dessus. Donc, tu sais, là, c'est devenu vraiment une partie de plaisir parce qu'on pouvait vraiment arriver avec un discours puis dire, ben voici comment on va optimiser le commerce électronique. J'ai pas besoin de te convaincre, tu sais, d'y aller en ce moment en ligne, de te positionner face à tes compétiteurs, qu'ils soient américains, canadiens ou québécois, peu importe. T'sais, là, on était vraiment, et on est encore aujourd'hui, dans un mode où ben c'est quoi le next step du commerce électronique? On le sait que tu le cherches, on le sait que tu veux te positionner, fait que tu es un petit peu plus agressif dans tes stratégies. Donc, le speech a changé, puis je pense que cette proactivité-là nous a aidé aussi à faire un meilleur bond encore plus pendant la pandémie. Là. Fait que je te dirais que ça, c'est au niveau, tu sais, du marché. Puis, je sais pas si tu veux en parler plus tard, mais il y a pas un petit peu l'impact culturel aussi là, des comme tu disais, tu sais, d'amener plus de gens dans l'entreprise,
ben
là,
oui,
puis notamment dans le service. Là. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui est à gérer aussi en parallèle pendant cette croissance-là.
C'est un beau défi. C'est un beau défi tout ça. Puis est-ce que ça serait vrai de dire, puis tu me corrigeras si je me trompe, François Jérôme, que le monde avant la pandémie, vous, de votre côté, vous deviez vendre le commerce électronique, et le monde après la pandémie, vous deviez vendre Novatez. Vous deviez dire, vous avez compris ce qui se passe avec le commerce électronique. Maintenant, voici qui on est. Puis en s'étant positionné plusieurs années auparavant, avant que cette crise-là arrive, ben là, vous aviez les épaules solides pour aller attaquer cette croissance-là, pour aller prendre ce marché-là au moment où est-ce que maintenant, ces mêmes clients-là, ces mêmes entreprises étaient éduquées.
Oui, effectivement. Puis tu sais, c'est sûr qu'on dit vendre Novatez, puis là, c'est surtout, tu sais, on parle de l'aspect développement d'affaires beaucoup là-dedans, mais je pense que le plus important, puis je pense un win qu'on a fait beaucoup en pandémie, que l'équipe a réussi avec succès, là, puis honnêtement, ça, je peux pas te dire à quel point toute l'équipe a été impliquée là, tellement activement dans cette évolution-là. Là. Mais tu sais, c'est que, oui, il y a de vendre Novatez, mais il y a le fait que avant la pandémie, je pense que nous, on s'était positionné avec des bases solides en commerce électronique. Tu sais, on faisait très bien la base, on faisait des bonnes stratégies aussi, je pense, mais dans la pandémie, ça l'a forcé aussi à dire, OK, ben là, maintenant que les gens sont éduqués, il faut qu'on adapte notre offre de service. C'est plus juste un enjeu de développement d'affaires, puis venir dire, ah, ben maintenant, il faut vendre Novatez, c'est de dire, OK, ben maintenant, on va se sur-spécialiser dans certains services aussi. On va pousser encore plus loin les synchronisations d'inventaire qu'on pouvait faire avant, plus niveau technique. On va pousser encore plus loin tout le volet analytics puis intelligence d'affaires sur les plateformes qu'on... Encore plus loin le marketing automation. Fait, bref, il fallait toujours aller one step further là, pour faire une belle traduction. pour vraiment venir attaquer le marché. Fait que, oui, il y a le fait de vendre Novatez et tout ça, mais je te dirais qu'à la base, c'était vraiment de dire, ben garde, là, justement, les gens, ils comprennent la game du commerce électronique. Fait que c'est quoi qu'on peut faire de plus encore pour venir amener ça à un autre niveau chez nos clients. Fait que ça passait évidemment par la sur-spécialisation. Fait que, tu sais, pendant un an et demi, le learning aussi qu'on a dû faire par rapport à ça, puis de se sur-spécialiser, je te dirais que c'est ce qui a aidé énormément aussi à soutenir cette croissance-là.
Parlant de croissance maintenant, qui dit prestation de service, on sait très bien qu'une croissance va passer par du capital humain. C'est ce qu'on vend en service. On vend des cerveaux. On vend une intelligence qu'on va être capable de construire avec les gens à l'interne. Comment ça se déroule avoir 30 nouveaux collaborateurs qui, du jour au lendemain, on va dire sur une période de 12 mois, bien entendu, tu dois intégrer une organisation qui, pour la majeure partie du temps, doit opérer à distance?
Ben écoute, c'est sûr que c'est beaucoup d'adaptation, surtout le fait, c'est un peu bizarre, je pense que je suis pas tout seul à avoir vécu ça, mais le fait que quand t'intègres autant de gens à distance aussi, là, pis là, du jour au lendemain, t'arrives, puis là, tu sais, les choses commencent à réouvrir. Là. Aujourd'hui, on se parle, on est en juillet 2021, donc tu sais, les commerces réouvrent, les bureaux peuvent réouvrir, puis là, soudainement, tu te rends compte là, que quand tu t'es adressé la dernière fois à l'entreprise, il y avait 15 personnes devant toi, puis là, il y en a 50, là, c'est un peu spécial, mais... ça m'a fait réaliser aussi que ça s'est fait de façon quand même assez naturelle. Puis je pense que ça, c'est un investissement continu dans la culture. Là. Puis, tu sais, quand on parle de culture, tu sais, souvent les gens, je sais pas pourquoi encore, je pense que c'est un manque qui serait adressé, là, je sais pas de quelle façon, dans tout le volet entrepreneurial. Là, tu sais, on a des super belles entreprises au Québec qui ont une très bonne culture, tout ça. Puis des fois, j'entends encore que le volet culture, ça passe par les 5 à 7, par l'environnement physique, des choses comme ça, mais en tout cas, ça me fait tout le temps capoter là, à quel point c'est même pas la pointe de l'iceberg, là, c'est le petit bout. Je veux dire, le volet culture...
Ça, c'est du marketing.
Oui, ça, c'est du marketing, t'as raison, effectivement. Tu sais, c'est important, là, je veux dire, d'avoir cette chimie-là en équipe, là, mais je pense qu'il faut qu'elle témoigne d'autres choses aussi. Fait que, tu sais, nous, ça a toujours été un investissement assez actif dans l'entreprise, là, tu sais... au niveau de l'apprentissage, même le type de projet qu'on va aller chercher, le type de client, d'impliquer les gens dans ces prises de décision-là qui ont un impact sur la culture, je pense que ça a toujours été quelque chose de super important. Il y a un buzzword que j'aime beaucoup en anglais aussi, là, qui est « empower », que tu sais, une fois que tu as bien compris ça, moi, je sais jamais comment le dire en français, mais peut-être tu pourras m'aider. Mais tu sais, ce buzzword-là, empower, veut tellement dire beaucoup, là, parce qu'une fois que tu as bien compris ça, puis que les gens à l'interne, tu sais, justement, ils ont un certain pouvoir décisionnel, une autonomie, ben, tu sais, ta pérennité d'entreprise, elle va venir avec ça quand tu vas franchir une prochaine étape, les gens, ils vont travailler dans la même direction aussi. Fait que, tu sais, je pense que d'investir tout dans cette culture-là, de monter une team qui fonctionne dans la même direction, tout le monde ensemble, puis qui croit à ces prochains steps-là, ben ça rend beaucoup plus facile, justement, intégrer 30 nouvelles personnes. T'as un noyau qui est assez solide déjà. T'as des gens que, une fois que ça rentre dans l'équipe, ben t'as une base de connaissances aussi qui se construit là-dessus. T'as des gens qui vont plus référer aussi de capital humain à l'interne. Donc, tu sais, je te dirais que c'est une bonne roue qui tourne, qui fait que au final, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on pourrait croire tripler l'équipe.
Puis, je suis curieux de te parler de culture d'entreprise. Puis effectivement, c'est un terme qui est assez large. Hein. Très souvent, quand on voit ça de l'externe, culture d'entreprise, c'est 5 à 7, c'est bière au bureau. Mais au final, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, ça c'est davantage pour marketer ton organisation d'un point de vue ressources humaines. Mais si on vient à une culture et de faire en sorte que cette culture-là puisse vivre à l'interne, est-ce qu'il y a des anecdotes que tu peux partager avec l'audience aujourd'hui de choses que vous avez faites, Novatez, dans la dernière année ou même dans les dernières années qui vous aident à maintenir et à améliorer cette culture-là d'un jour à l'autre?
Ben, je te dirais que, écoute, une anecdote en particulier, peut-être qu'il y en a une qui va me venir pendant que je te parle, mais c'est toujours tout plein de petites choses, là, évidemment, là, qui vont construire la culture d'entreprise. Moi, comme je te disais, tu sais, très tôt, puis... En fait, je dis très tôt, non, soyons transparents. Je pense qu'au début, on le faisait pas assez, puis justement, on sentait les effets, puis il a fallu qu'on on s'est toujours adapté. Je pense que ça, c'est l'histoire classique d'un entrepreneur, là. Mais depuis quand même un bon bout de temps, là, dans les dernières années, là, les gens sont beaucoup plus impliqués, comme je te disais tantôt, dans la prise de décision. Puis des décisions quand même assez core à l'entreprise. Je pense que, tu sais, c'était comme on se faisait à croire avant que, ah, ben, tu sais, on va donner cette direction-là, puis t'sais, on sollicitait les gens, mais après ça, tu te rassois, tu prends la décision, tout ça, mais des fois, d'être beaucoup plus actif, puis t'sais, quand je te parle de décision, là, même cette année, pour te donner un exemple, on a changé complètement nos méthodologies de travail l'année passée. Ben, je dis cette année parce que c'était des commentaires qui étaient venus l'année passée. Fait qu'on a complètement revu toute la façon dont on travaille, l'équipe, comment est montée, les outils de travail aussi, tu sais, ça a été quand même un shift assez majeur dans l'entreprise qui nous a aidé dans la croissance. Puis quand je te disais tantôt que je pouvais pas insister assez à quel point les gens étaient impliqués là-dedans, même que je peux te dire aujourd'hui que ça venait pas de nous, là, tu sais, ça venait vraiment des propositions du staff, tu sais, qu'on a écouté, qui disait, ben, écoute, je pense que la façon qu'on gère les projets actuellement, quand on va être justement 50, puis quand on va être 75, 100, ça marchera pas. Fait que là, ben, il faut que tu t'assoies, t'écoutes, bon, pourquoi est-ce que ça marchera pas? Puis après ça, ben, tu trouves un petit peu l'esprit, puis tu regardes c'est quoi, comment tu peux appliquer ces changements-là. Je pense que ça, c'est aussi la clé, là, la gestion du changement dans une organisation. Parce que quand tu es en croissance, je pense que faut que tout le monde dans l'équipe soit, tu sais, conscient qu'il y a du changement. Mais au-delà d'être conscient, je pense aussi que ça te prend du monde qui aime le changement, là, tu sais, qui se disent, moi, ça me dérange pas demain matin que mon rôle évolue. Que même si j'étais habitué de faire telle tâche de façon journalière, ben, demain matin, ça va être un petit peu différent. Je pense que ça te prend des gens qui aiment cette évolution-là et qui veulent s'adapter là-dedans. Donc, anecdote, peut-être pas, mais tu sais, c'est tout le temps, à chaque jour, tu sais, il y a tout le temps des petites opportunités comme ça qu'il faut saisir, je pense, qui permettent d'améliorer cette culture-là et qui fait que ça va grandir naturellement après ça.
Ben, c'est un avantage ou un désavantage, argumentablement, de travailler pour une plus petite organisation. Donc, c'est ce changement continuel-là et encore plus dans une industrie qui est propice au changement constant. On en parlait, toi et moi, juste avant l'enregistrement du podcast. Si on part en vacances pendant quelques semaines et qu'on revient, ben, il y a des très bonnes chances que le commerce électronique, Amazon Marketplace, tout ça, il y a beaucoup de nouveautés qui a changé. La même chose qu'on fait de la publicité Facebook. On dirait que l'algorithme, il change à tous les jours maintenant. Donc, en même temps, tu peux pas engager des gens qui sont pas prêts à vivre avec le changement parce que une petite entreprise, ou du moins une petite qui devient une moyenne entreprise et une organisation dans une industrie du commerce électronique, si t'aimes pas le changement, je pense que t'es peut-être juste pas au bon endroit.
Exact. Non, t'as un super bon point. Puis je pense que ça va toujours rester un défi aussi dans une croissance de conserver une culture forte, de conserver une certaine culture de proximité aussi. Puis ça change la donne parce que quand t'es 15, ça peut être toute l'équipe ensemble tout le temps qui vit cette culture-là. Là, tu grossis, tu as des départements, fait que ça se fait de façon un petit peu différente à ce niveau-là. Mais écoute, tu as 100% raison. Là, c'est un domaine qui évolue tellement rapidement. Il faut que tu veuilles vivre ce changement-là, il faut que tu veuilles rester en avant de la vague. Puis en même temps, ben c'est important à dire, c'est impossible aussi de tout connaître puis d'être tout le temps en avant complètement de la vague. Là. Puis on en parlait tantôt. Fait que tu sais, c'est surtout une question de s'adapter, de faire confiance à qu'est-ce qu'on a traversé avant aussi, tu sais, dans l'équipe, dans les challenges clients, puis tout ça, puis de se dire que avec tout ce bagage-là que j'ai, ben cette nouvelle situation-là que j'ai peut-être jamais vécue avant, ben je vais être capable de la traverser. Puis c'est là qu'est ma valeur aussi. Fait que c'est quand même, tu sais, c'est un challenge de changement, mais c'est super, comment je dirais ça, tu sais, rewarding.
Gratifiant, intéressant.
Ouais, gratifiant, ben oui. Exact. Mm-hmm. C'est super gratifiant comme challenge quand tu es capable de traverser des changements dans une croissance.
Tu as parlé beaucoup de changements, j'en ai parlé également. À quoi ça ressemble le changement d'un président fondateur d'une organisation qui passe d'une quinzaine d'employés à bientôt 50? J'imagine que ton rôle ne peut plus et ne doit plus être le même que ce qu'il était en février 2020.
Ouais, effectivement, c'est quand même, faut savoir s'adapter. Je te dirais que, tu sais, comme je te disais, moi, l'aspect business, bon, j'ai toujours trippé là-dessus. Fait que, tu sais, pour ça, je me retrouve tout le temps, je suis super content de l'idée de l'entreprise et d'avoir le rôle que j'ai. Au niveau technique, ben c'est sûr que je peux écrire un petit peu moins de lignes de code qu'avant. Fait que ça, des fois, je m'en ennuie, mais ça passe, puis écoute, c'est drôle que tu me poses la question parce que je regardais, il y a 2 semaines, là, c'était l'événement de Shopify qu'ils font à chaque année. Là, puis à la fin, tu voyais Tobias Lutke, qui est le président de Shopify, démontrer les nouveaux outils pour les développeurs, puis il écrivait lui-même des lignes de code, puis tout ça. Bon, ça devait être préenregistré, là, mais n'en demeure pas moins que, tu sais, je me disais, ah, ben regarde, vois-tu, il est capable quand même de conserver un certain aspect. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours trouvé ça super important de bien comprendre, tu sais, tout comment se passe à l'interne. Puis je me verrais jamais demain matin me détacher complètement, tu sais, j'aime trop ça, tu sais, me détacher de tout le niveau technique, tu sais, quitte à ce que j'en fasse moins, quitte à ce que j'aie pas un impact dans les projets, ça c'est correct, je peux amplement vivre avec ça, mais je trouve ça tellement important d'avoir cette encore une connaissance sur tout l'avancement des choses là-dedans. Que je trouvais ça réconfortant de voir Tobias Lutke, tu sais, CEO de Shopify qui montre une ligne de code aux développeurs, tu sais, voici ce qui s'en vient. Je me disais, hey, ça c'est hot. Puis non, tu sais, le rôle change, c'est sûr que je suis plus dans les mêmes opérations qu'avant, mais c'est toujours des défis qui sont super trippants. Fait que tu sais, c'est plus de gestion de croissance et c'est un autre type de défi, mais n'en demeure pas moins que je pense que c'est important quand même de garder de se garder dans la passion puis du fait de pourquoi aussi tu sais, on a parti d'entreprise puis c'est quoi qui nous fait triper puis tout ça aussi là-dedans.
Puis bon, ce qui est intéressant avec vous Novatize, c'est qu'en plus d'avoir une agence excessivement spécialisée, vous offrez beaucoup à l'industrie en général. Et quand je dis ça, je parle surtout de votre événement annuel, la journée e-commerce qui dans la dernière année s'est déroulée en ligne pour des raisons évidentes, mais habituellement, ça se passe dans la ville de Québec. Vous avez des invités de renom qui viennent, des gens de Amazon, des gens de Shopify, des gens de ShipStation qui viennent également. Un paquet d'invités également sur des grosses entreprises québécoises dans le commerce en ligne. C'est un événement que j'ai eu la chance de participer il y a quelques années, que j'ai trouvé fascinant, très intéressant même. Peux-tu nous parler un peu de les conséquences, on va dire, positives d'un événement de la sorte? Donc, automatiquement, puis dans la manière que vous le faites, c'est pas l'événement, on va dire, présenté par Novatize. C'est vraiment les journées e-commerce qui est une entité à part, je crois même au sens légal de la chose d'ailleurs. Et mais tout de même, vous êtes les organisateurs, vous devez avoir des rencontres qui sont assez intrigantes avec beaucoup de gens qui sont sur place. Ça doit également donner une belle vitrine pour du recrutement futur. Parle-nous un petit peu des conséquences positives d'un événement de la sorte.
Ouais. Oui, ben écoute, c'est sûr qu'il y en a tellement là, honnêtement là. Puis je te dirais que, tu sais, à la base, faut comprendre que la journée e-commerce, tu l'as dit là, tu sais, c'est un OBNL qui s'appelle les événements e-commerce. Puis nous, on l'a créé dans le contexte que je t'expliquais tantôt que fallait vendre le commerce électronique avant, tu sais, convaincre les gens d'aller en ligne. Puis c'était vraiment ça la vocation de l'événement. Puis ça l'est encore aujourd'hui, tu sais, de dire, d'amener des gens qui ont réussi en ligne, d'amener des partenaires, de faire rencontrer du monde, de partager de l'information. Nous, ça a vraiment été ça l'objectif au départ, de dire on veut donner une vitrine, puis un événement où les gens vont venir apprendre, tu sais, ils vont ressortir, puis tu sais, il y a à apprendre, puis on se le cachera pas, quand tu sors d'un événement, que tu vois des gens qui ont du succès, qui viennent, tu sais, on a amené des gens aussi de Movement Watches, par exemple, qui était une grosse start-up californienne, tu sais, on a amené le gars de marketing parler de ça à Québec, tu sais, des gens aussi qui ont très bien réussi à l'international. Tu sais, c'est le fun parce que tu ressors de ça, t'es crinqué, là. Tu sais, t'es un entrepreneur e-commerce, tu sais, t'as le goût, là, de retourner chez vous, là, puis de faire à peu près 52 affaires sur, que ce soit ta plateforme, tes stratégies, etc., etc. Puis ça, tu sais, c'était quelque chose qu'on trouvait super beau à voir. Fait que je te dirais que, tu sais, la base de tout ça, c'était vraiment que le marché puisse s'élever, encore une fois, tu sais, qu'on puisse voir c'est qui les tops dans le marché, puis comment je fais pour aller là. Ensuite de ça, pour Novatez, ben, c'est évident que, tu sais, ça nous donne l'occasion de rencontrer beaucoup de bons joueurs aussi dans le marché. Puis tu l'as dit, on s'affiche pas parce que nous, on veut pas non plus que ça devienne un événement qui a l'air privé, sponsored. Puis tu sais, en même temps, on fait pas de sollicitations quand on est là-bas. C'est dans les règles. Puis nous autres, c'est important parce qu'on veut être capable d'attirer les meilleurs. On veut que ce soit une attitude qui soit no bullshit quand on est là-bas. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Fait que je te dirais que, tu sais, outre ça, c'est sûr que ça nous permet de rencontrer des super belles business, tu sais, qui ont réussi au niveau du commerce électronique. Ça nous permet aussi, effectivement, tu sais, d'avoir des candidats ambitieux, tu sais, qui viennent, parce qu'il y a quelqu'un qui prend la peine, tu sais, d'aller à un événement, d'apprendre, puis tout ça, souvent, ça en dit long aussi sur son profil. Fait que c'est souvent des gens qui sont super intéressants à rencontrer, puis à, pourquoi pas, à un moment donné, travailler dans l'entreprise. Puis au-delà de ça, je te dirais que l'impact le plus positif, là, j'ai juste parlé de culture aujourd'hui, là, mais c'est un peu ça, dans le sens où, tu sais, nous, la team, pendant cette journée-là, c'est bar open, si tu veux regarder des conférences, tu y vas, fais juste le mettre dans ton agenda, puis écoute, tu vas y assister. Fait que, tu sais, ça donne une journée qui est super le fun pour toute l'équipe à l'interne. L'équipe aussi organise comme tu disais, les événements, les conférences qui ont lieu là. Donc, tu sais, il y a un certain sentiment d'accomplissement aussi, là, quand tu vois un gros nom qui monte sur le stage, qui fait une super présentation que les gens aiment. Puis, donc, tu sais, ça te sort un petit peu de ton quotidien, là, de faire cette gestion-là aussi. Fait, non, je te dirais qu'il y a énormément d'impact positif, là. C'est un bet qu'on a fait il y a, je pense, 4 ans, la journée e-commerce. Fait que ça existe, là. Puis, écoute, dans les meilleurs bets de l'entreprise à date, là, honnêtement, là. Fait que je suis super content, là.
Intéressant, fascinant même, parce que j'ai eu la chance de voir un petit peu l'évolution de cette journée-là à travers les années, puis clairement, on voit que vous êtes capable de passer à un niveau supérieur d'une année à l'autre avec les invités, la qualité des invités que vous êtes capable d'avoir. Également, les gens qui viennent, donc, si je me trompe pas, la dernière fois que c'était en présentiel, c'était rempli, là, il y avait des centaines, peut-être même 1000 personnes qui étaient à l'événement. C'est quand même important, là, d'avoir autant de gens comme ça qui sont capables de venir à l'événement. Donc ça, c'est tout à votre honneur. Puis j'aimerais ça continuer un petit peu dans la vague du commerce électronique. Je lisais un article récemment assez intéressant de TechCrunch qui mentionnait que la dernière année, ce qui s'est déroulé avec la pandémie, a accéléré par 5 l'implantation pour des entreprises qui ne le faisaient pas à la base, du commerce électronique dans leurs opérations. Donc théoriquement, en 2021, à cause de la pandémie, on est rendu à un stade que, selon des recherches passées, on serait supposé être en 2025, disons. Donc, il y a eu une très, très grosse accélération avec le commerce électronique. Comment vous l'avez vécu, ça, vous, de votre côté? Qu'est-ce que vous avez senti avec les gens que vous alliez rencontrer, avec les gens, peut-être même des clients internes? Comment vous avez senti cette vague-là d'accélération du commerce en ligne?
Je te dirais que moi, j'ai été... Ben, je m'y attendais, mais j'étais surpris et très heureux de voir que les entrepreneurs québécois ont vraiment saisi les opportunités, là. C'était fou, là. T'sais, on recevait, quand ça arrivait, tu sais, on se rappelle tout en mars, quand on a compris qu'on allait être en lockdown à un moment donné, tu sais, je pense qu'il y a eu une petite période de buffer où tout le monde se disait, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait, puis comment ça va m'affecter, puis je pense que c'était une réaction qui était comme normale, mais plus rapidement que je pensais, tu sais, il y en a qui ont compris ce qui allait arriver. Il y en a qui savaient que le commerce électronique, ça allait sauver, mais même plus que ça, propulser leur business, même s'il y avait beaucoup de briques et mortiers. Donc, tu sais, je pense que ce qui a été le fun là-dedans, justement, c'est qu'on assistait à des rencontres où les gens, comme je te disais tantôt, ils avaient fait des recherches, ils disaient, OK, ben moi, j'ai regardé telle solution, laquelle tu me proposes, nous autres, on y va. Donc, tu sais, tantôt, on parlait de vendre l'entreprise plutôt que le commerce électronique. Même déjà, là, les gens arrivaient avec, ils savaient déjà quelle solution ils voulaient, mais ils voulaient juste être sûrs de bien le faire. Donc, tu sais, c'est pas surprenant ce que tu me dis là, qu'on ait passé un gap de 5 ans. Puis, tu sais, au-delà de ça, on disait toujours avant qu'on était comme 5 ans en arrière sur les États-Unis par rapport au commerce électronique, là, qui investissent depuis des années quand même assez massivement là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que ça l'a rapproché un petit peu, ce gap-là. Puis maintenant, tu sais, on a tellement de belles entreprises québécoises là, qui sont capables de se mesurer, tu sais, au marché américain puis qui se positionnent sur une scène internationale au niveau e-commerce. Là, je pense à Altitude Sport, je pense à Essence, je pense à Simon, tu sais, il y en a beaucoup. Donc, je pense que effectivement la dernière année, ça a été ça. Nous, comment on l'a vécu? Comme je te disais, ça l'a trigger un petit peu une surspécialisation de certains services. Puis tu sais, quoi de mieux que de le faire avec les clients, là? C'est super trippant parce que tu arrives dans un mandat client, tu dis OK, ben on va vivre cette nouveauté-là ensemble, puis on va amener cette nouvelle feature-là ou cette nouvelle façon de penser-là dans ton entreprise, puis on va le faire ensemble. Donc, tu sais, ça a été challengeant mentalement, mais justement, je pense que tout le monde aime ça, un petit peu se creuser le ménage puis essayer d'aller un petit peu plus loin. Fait que c'est vraiment ça que ça a apporté comme mentalité à l'interne puis comme gestion de changement. Outre, comme on disait tantôt, tu sais, toute la croissance qu'il a fallu aller chercher certains profils, apprendre là-dedans. Donc non, vraiment, tu sais, on l'a ressenti de cette façon-là. Puis écoute, on le ressent encore, hein, parce que je pense que la minute que tu commences à avoir cette mentalité-là, à positionner la techno puis le commerce électronique au cœur de ton entreprise, ben après ça, tu crées un noyau, tu sais, en tant que brand, en tant qu'entreprise, puis tu vas toujours vouloir évoluer dans ce sens-là. Ça devient une nouvelle ligne d'affaires qui est super importante. Donc, tu sais, encore aujourd'hui, ben il y a des projets d'évolution là-dedans. Ça continue, il y a toujours un next step. On parle déjà c'est quoi qui va se passer en 2022 chez certains clients. Donc, tu sais, c'est quand même c'est un phénomène qui est arrivé puis que, selon moi, est là pour rester quand même, en tout cas, hopefully longtemps.
Ben, mais, c'est certain. Je veux dire, c'est inévitable. Ouais. C'est inévitable que le commerce en ligne va prendre de plus en plus de place. Je pense qu'on vient de vivre un accélérateur assez important avec la dernière année. Puis c'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que habituellement, on voit souvent que nos voisins du Sud sont à l'avant-garde de certaines choses que nous, on voit quelques années plus tard. Et j'aimerais en parler de ça un petit peu avec toi, sachant maintenant que c'est davantage démocratisé le commerce en ligne, c'est également davantage démocratisé le développement international. Hein? Dans le passé, c'était peut-être beaucoup plus difficile d'aller développer des clients à l'international. Maintenant, beaucoup de ces rencontres vont se faire en vidéoconférence, donc ça donne la possibilité à quasiment n'importe quelle entreprise d'avoir une empreinte globale. Qu'en est-il de Novatez? Est-ce que c'est dans les plans de peut-être vouloir développer davantage l'entreprise sur des endroits géographiques distincts que le Québec?
Oui, puis écoute, ben, je suis content que tu en parles parce qu'il y a plusieurs volets à cette réponse-là. Mais écoute, nous, premièrement, actuellement même, on a un plan de développement aux États-Unis pour aller s'implanter là-bas. Sur la côte Est, donc on a encore quelques villes en tête, là, mais on a quand même une couple de finalistes là, pour aller implanter des bureaux satellites. Puis écoute, ben ça c'est une chose, tu sais, de dire on va aller développer le marché, tu sais, de se faire un plan pour garder quel partenaire tu peux utiliser pour t'implanter là-bas, aller chercher des mandats puis tout ça. Il y a une autre chose que je pense qu'on n'avait pas discuté toi et moi ensemble avant, mais que maintenant qu'on en parle, ça peut valoir la peine de mettre de l'avant. Tu sais, quelque chose qu'on a décidé de faire depuis un an et demi, 2 ans maintenant, c'est d'investir même dans des marques, donc directement des marques soit de nos clients ou même une marque interne qu'on crée de toutes pièces ici. Puis tu sais, ce que ça nous a aidé à faire, ben un, c'est de comprendre plusieurs réalités clients. Puis ça, si je peux braguer un peu, là, tu sais, honnêtement, ça nous a tellement, je te dirais, tu sais, que le cliché, je pense, de certaines entreprises, quand tu arrives et tu fais affaire avec une agence, des fois, c'est que tu penses, ben, je vais-tu être bien compris? Est-ce qu'ils savent vraiment c'est quoi mes enjeux puis tout ça? Ben, nous, moi, je peux dire qu'on le sait. Tu sais, on a vécu le product development de zéro. Tu sais, on a une entreprise qui vend des biens de consommables, notamment pour donner un exemple, tu sais, de la pâte à dents, là, qui est dans un des produits qui a vraiment des selling points uniques, là, qui est un produit super le fun, qu'on a fait développer par des chimistes aux États-Unis. Il a fallu qu'on s'implante aussi avec la FDA. Puis tout ça pour dire que ces marques-là, dont une, on a décidé de la commercialiser aux États-Unis. Puis ça nous a fait voir les challenges de commercialisation aux États-Unis. T'sais, autant d'entrer des produits là-bas, donc tout l'aspect logistique, certification, etc., que l'aspect commercialisation. Tu en viens à comprendre plusieurs choses, comme quand tu commercialises, quand tu marketes auprès d'un Américain, c'est pas comme marketer auprès d'un Canadien. Puis encore plus que ça, ben quand tu marketes à New York, c'est pas comme en Californie. Tu peux même quasiment aller jusqu'au county là, pour dire que les gens ils ont une façon différente d'acheter. Donc, c'est vraiment un autre marché. Puis, spécialement dans le service, moi, ce que je trouve intéressant, c'est oui, c'est le fun d'aller aux États-Unis et de dire, OK, on va aller chercher un mandat là-bas, mais faut comprendre la game aussi là-bas parce qu'on va avoir des objectifs à remplir, on va avoir des clients. Donc, ce volet-là d'avoir investi dans des marques puis d'être capable de les commercialiser aux États-Unis, au Canada, ben ça nous aide à comprendre cette game-là puis d'arriver puis de dire, tu sais, nous, on le sait, ce que vous êtes en train de vivre. Donc, voici comment on va s'adapter puis comment qu'on va passer le prochain step ensemble.
OK. Puis, est-ce que c'est ça un peu l'avenir de Novatize? Un hybride entre la prestation de service pour des clients qui veulent, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, optimiser, améliorer leur présence en ligne. Également, une deuxième ligne d'affaires qui est davantage reliée à de la conception et de la commercialisation de produits où vous êtes propriétaire.
Je te dis, c'est une bonne question. Je te dirais que je suis vraiment un grand fan du service. Vraiment, là. Puis, parce que moi, ce que j'aime, comme je te disais tantôt, puis je suis encore en amour avec cette notion-là, c'est qu'on touche à plein d'industries. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je veux définitivement, qu'on va toujours continuer à pousser plus loin, full pin, puis c'est notre focus. Donc, je te dirais que je trouve que c'est des super beaux ventures d'avoir les brands. Puis c'est quelque chose aussi qu'on va vouloir pousser plus loin, mais de façon très indépendante, puis en étant sûr que ça peut s'imbriquer dans le core de l'entreprise pour le moins possible dénaturer ce qui se passe. Donc, tu sais, je suis quelqu'un aussi d'assez ambitieux dans la vie. Fait que, tu sais, je dirais pas qu'il y en a un des deux qui est un side project, dans le sens où on structure très bien ces deux volets-là pour que ça puisse grandir, puis on a des objectifs ambitieux autant au niveau du service qu'au niveau des marques. Mais c'est pas quelque chose qu'on veut faire au détriment l'un de l'autre. Donc, pour répondre à ta question, ça peut être oui un certain futur, mais c'est sûr que le service va continuer à prendre toujours plus d'expansion. Puis, tu sais, on pense que ça nous aide aussi à toujours être, tu sais, la valeur qu'on a aussi par rapport au service puis aux marques internes, c'est qu'on est toujours avec les dernières techs du marché. Tu sais, quand un client arrive avec un nouveau besoin, ben tu as toujours l'occasion de te dire, OK, ben c'est quoi la dernière solution la plus haute puis comment on peut la maîtriser. Fait que, tu sais, ça, on peut reprendre un petit peu cet aspect-là sur des marques internes. Puis vice-versa, ben sur des marques internes, des fois, on vit certains challenges que là, on se dit, ah ben tabarouette, tel client, il a dû le vivre ou il est en train de le vivre. Puis, tu sais, on est capable de venir faire un extra mile que, tu sais, en règle générale, on penserait pas qu'une entreprise de e-commerce va venir donner un conseil sur, exemple, des challenges de douane quand tu rentres aux États-Unis ou des certifications puis tout ça, mais nous autres, on l'a vécu. On est capable de venir discuter de ça avec nos clients puis de dire, ben écoute, nous, c'est comme ça qu'on l'a traversé. Fait que des fois, ben ça donne des discussions intéressantes, ça donne lieu à des synergies qu'on n'aurait pas si on n'avait pas ce volet-là non plus. Fait que ça amène effectivement une belle valeur qui de part et d'autre et du service et des marques.
Je m'aimerais, François-Jérôme, sur des petites questions personnelles. Donc, tu as parlé beaucoup d'apprentissage aujourd'hui. Où est-ce que tu voulais que ton équipe soit capable de continuellement être à l'avant-garde des nouvelles tendances en leur donnant du temps spécifique pour, bien entendu, la journée e-commerce, mais d'autres choses que vous faites également à l'intérieur de votre organisation. Toi, personnellement, comment tu t'éduques? Est-ce que tu lis un peu des livres d'affaires? Est-ce que c'est une des techniques que tu utilises pour essayer de t'inspirer, te donner une source de motivation pour les prochaines initiatives de Novatize?
Écoute, ben, c'est toujours important de lire. Je lis pas beaucoup de romans, je te dirais. Là. C'est pas mon. Ben, ou de romans ou de livres à proprement dit, d'autobiographie et tout ça. J'ai lu quelques classiques à l'époque, mais je te dirais que je suis quand même un fan de Harvard Business Review. Là. C'est quelque chose que je suis abonné depuis quelques années. Je sais que même il y a un podcast, là, il n'est pas aussi hot que le tien, là, mais il y a un podcast qui est quand même le fun au niveau des sujets abordés et tout ça. Écoute, à chaque fois que je reçois la nouvelle édition, là, je suis toujours surpris d'à quel point ils sont on point par rapport aux enjeux actuels, tu sais, puis qu'on vit. Donc ça, honnêtement, là, Harvard Business Review, là, c'est mon petit gem là. À chaque matin, je reçois les je pense que c'est le premier courriel que je reçois, là, c'est Tip of the Day, puis c'est Harvard Business Review, puis je lis ça, puis fait que ça te garde tout le temps un petit peu au jus de ce qui se passe. Puis aussi, ben, l'actualité, évidemment, pour se garder up to date comme tout le monde, je pense.
Puis podcast, bon, est-ce que tu en écoutes quelques-uns?
J'en écoute quelques-uns. Je te dirais que, écoute, des podcasts comme le tien, comme HBR, je pense que c'est ce qui prend la majeure partie, mais je suis aussi, je pense que c'est important d'avoir un work-life balance qui est assez le fun. Puis, tu sais, moi, j'écoute Joe Rogan quand je veux me détendre un petit peu. Puis que, tu sais, il est excellent, c'est ça. Puis, tu sais, il amène des gens qui sont tellement fascinants, puis tout ça. Fait que, écoute, Joe Rogan, c'est un classique, mais, tu sais, quand tu veux quand même apprendre, mais pas non plus trop te remplir la tête, là, je pense que c'est un bon hybride, là, pour faire ça, là.
Puis, je terminerai, est-ce que tu as des routines spécifiques avant, pendant et après le travail?
Écoute, je suis pas quelqu'un de très routinier, là. Je pense que, à un moment donné, je t'écoutais dans ton podcast, je sais pas si c'est avec Judith, mais tu disais que tu avais à peu près 50% du monde qui disait qu'il y avait une routine, puis d'autres qui en avaient pas, là. Je fais pas mal partie de la gang des anti-routiniers aussi. Il y a quelques petites affaires, comme tu le disais, tu sais, certains emails le matin, tu sais, je pense que quelque chose que je fais aussi, que je sais pas si tu t'en tires dans une routine, là, mais tu sais, j'aime ça attaquer les points les un petit peu plus, pas stressants, là, mais qui te demandent le plus de concentration tôt le matin, là. Je pense que tout le temps quelque chose qui te permet après ça, tu sais, de mieux réfléchir le reste de la journée au challenge que tu vas avoir puis tout ça. Mais sinon, écoute, j'essaie tout le temps des nouvelles affaires, fait que j'essaie d'être le moins routinier possible, malheureusement pour cette réponse.
Parfait. Ben, François-Jérôme, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Comment qu'on peut en apprendre plus sur toi, sur Novatez, peut-être même sur la journée e-commerce?
Ouais, ben écoute, la journée e-commerce, c'est pas compliqué, c'est journeeecommerce.com. Il va y avoir une nouvelle, là, l'édition est passée cette année. Comme tu disais, on a eu des centaines de participants. L'année prochaine, si c'est en physique, on espère aller chercher environ 1000 participants aussi. C'est au terminal de Croisière à Québec. Donc, tu sais, je vous invite à suivre les réseaux sociaux de ça. Si vous voulez avoir un petit peu plus le côté culture de Novatez, on est assez fort sur Instagram aussi. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Et n'hésitez pas si quelqu'un a des questions. J'adore rencontrer de nouvelles personnes, discuter. Donc, LinkedIn, ça peut être une bonne première mise en contact. Puis après ça, pas trop long qu'on peut échanger de téléphone. Fait que on est assez open là-dessus sur plusieurs réseaux. Là.
Bon, ben merveilleux. François-Jérôme, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. C'est assez épatant de voir que la COVID-19 a littéralement agi dans les extrêmes pour les entrepreneurs. Certains ont vu leur chiffre d'affaires s'évaporer et d'autres ont connu des croissances quasi exponentielles. Maintenant, ce n'est pas tout de croître, on doit également livrer la marchandise derrière et je suis heureux de voir que l'équipe de François-Jérôme a su relever le défi avec brio. Chapeau Novatez. Également, je vous invite à me contacter directement par courriel si vous aimeriez me présenter des entrepreneurs que vous voudriez avoir sur le podcast. Mon email est dans les notes de l'épisode. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.